Les colloques du Collège de France.
Notre orateur suivant est le professeur Jean-Clément Martin, qui va nous ramener à des problématiques plus nationales. En nous parlant de guerre de Vendée et génocide, au-delà des polémiques, une question capitale. Le professeur Jean-Clément Martin est un professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Il a été professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nantes, puis professeur d'histoire de la Révolution française à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a consacré de nombreux livres à la Révolution française, comme à la contre-révolution et à leur mémoire. Il est spécialiste de l'histoire donc de cette Révolution française et de la guerre de Vendée. Il a notamment publié, alors je ne vais pas énumérer tous les ouvrages, ce serait trop long, mais on pourrait signaler donc « La Vendée et la Révolution » paru en 2007, « Une nouvelle histoire de la Révolution française » en 2012, ensuite, un ouvrage consacré à Robespierre, « La fabrication d'un monstre », « La Vendée de la mémoire » entre 1800 et 2018, paru en 2019, et enfin, donc plus récent, « La grande peur » de juillet 1789, paru chez Talendier en 2024. Et je finirai en signalant qu'il a été conseillé pour le jeu vidéo « Assassin's Creed Unity ». La parole est à vous.
Merci Madame la Présidente. Merci de vous parler justement de l'actualité de l'histoire. Et ce que je voudrais faire après les propos qui ont été tenus ici, c'est en quelque sorte de voir cette question du point de vue de l'historien qui pourrait être confronté à l'utilisation de propos qui seraient pour lui impossibles à utiliser, puisque ce seraient des propos qui seraient anachroniques. Je dois dire que le dessin de M. Chapa me gêne beaucoup, parce que finalement, la question essentielle pour un historien ou une historienne, c'est pas tout à fait toujours le même point de vue, c'est qu'il n'y a pas d'anachronisme en histoire, ou plus exactement qu'il est nécessaire de mesurer et d'utiliser l'anachronisme d'une façon graduée et intelligente, subtile, puisque de toute façon, les mots que nous employons à un moment donné ne sont pas les mots qui étaient employés auparavant. C'est pas parce que le capitalisme a été utilisé vraiment très tardivement qu'il n'est pas possible de voir des logiques capitalistes dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Et donc, il me semble que c'est le premier, je dirais, verrou qu'il faut tirer à propos de cette question du génocide, ne pas être emprisonné par les définitions, puisque l'histoire n'est pas non plus destinée à juger et à porter des jugements qui sont des jugements impliquant éventuellement des sanctions. En revanche, l'histoire sert à gérer les mémoires, à gérer les connaissances et à régler aussi les difficultés mémorielles qui subsistent dans une nation, vous y faisiez allusion. Et de ce point de vue-là, la guerre de Vendée en est malheureusement un bon exemple. Si bien que je ne considère pas non plus qu'il s'agit là de traiter des légendes noires. Le mot ne me plaît pas. Il me semble que c'est tout simple, ce serait un mot péjoratif. Si la question se pose, et si la question a été posée même d'une façon polémique, cette question était légitime, puisqu'il était nécessaire de pouvoir imaginer, d'inventer, de résoudre cette question mémorielle qui nous obsédait et qui nous obsède toujours. En cela, la question que je vous présente ici est une question d'actualité qui ne sera pas réglée juridiquement, enfin tout au moins j'espère qu'on n'engagera pas des procédures juridiques et politiques sur cette question-là. En revanche, il me semble nécessaire d'y revenir pour comprendre pourquoi nous en parlons. Et puis pour dire aussi que les faits que l'on peut proposer par l'étude historique sont des faits qui peuvent résoudre des problèmes et que les mêmes que cette présentation de par l'histoire, par l'historien, permet, je dirais, d'éviter des contresens. D'éviter des contresens et de voir quelle est effectivement l'utilité d'un mot, et en l'occurrence de ce mot « génocide ». Il me semble malgré tout nécessaire, très brièvement, de présenter les faits. Présenter les faits dans leur brutalité. Présenter les faits, c'est tout simplement là la photographie d'une carte tirée d'un livre qui est paru en 2021, l'infographie de la Révolution française. La carte a été réalisée par le graphiste Julien Pelletier. Pour faire bref, très brièvement, je ne vais pas la commenter, mais vous la verrez tout le temps. Ça sera pour rappeler que tous mes propos reposent sur cette existence-là. Repose sur le fait qu'entre 1793 et 1796 à peu près, il y a donc eu ces massacres, ces mises à mort, ces exécutions qui sont représentées d'une façon très, je dirais, allusive. Ne me cherchez pas des noises là-dessus. On n'est pas capable, bien sûr, de préciser très, très exactement pour ce qui s'est passé. En revanche, ce qui est assuré, c'est qu'il y a bien eu, et ce sont toutes les taches rouges, il y a bien eu là des mises à mort importantes liées à la guerre, mises à mort de populations civiles ou de ces soldats d'occasion qui peuplaient les armées catholiques et royales, puisque c'est comme ça qu'elles s'appelaient. Première chose. Deuxième chose, ce sont les petits bonhommes bleus qui partent et qui rappellent que s'il y a bien eu ces massacres dans cette zone dont on parle régulièrement comme de la Vendée militaire, et je reviendrai sur le sens du terme dans 3 minutes, il y a eu également des individus, des milliers, des dizaines de milliers assurément, qui, forcés ou de leur propre volonté, sont partis de cette zone et qui ont été appelés les réfugiés de la Vendée. Donc, d'un côté, les rebelles ou les brigands de la Vendée, dont beaucoup ont été mis à mort. De l'autre côté, les réfugiés de la Vendée qui ont été, eux aussi, des dizaines de milliers, moins que les morts, mais qui permettent de comprendre à quel point ce qui s'est passé dans ces années-là a été compliqué. Et ce que je vous propose, justement, c'est une réflexion brève, trop rapide, pour savoir s'il est possible, s'il est surtout utile d'utiliser le mot génocide au regard de ce qui s'est effectivement passé. Un mot, malgré tout, pour bien préciser ma position, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet non plus. Cette carte, je l'ai établie donc en fonction de tout ce qui a pu être rassemblé dans l'historiographie et ce qui a été aussi commémoré depuis une centaine d'années par des associations militantes comme le Souvenir Vendéen. C'est ce rassemblement de faits ainsi qui est le fond de cette carte. La deuxième chose, c'est que mon propos est simple. Je suis depuis pratiquement 40 ans hostile à la qualification des génocides pour parler de ce qui s'est passé en Vendée de 1793 à 1796, et je persiste dans ma position. Je persiste dans ma position tout en insistant sur l'importance exceptionnel du nombre des mises à mort pendant cette période. J'en ai fourni le chiffre très estimatif de 250 000 victimes qui a été rabaissé un peu par une sorte de consensus tacite en définitive entre spécialistes et antagonistes de cette question-là autour de 200 000. Mais c'est bien de cela dont je parle et c'est de cela que sur lequel je travaille pour dire maintenant pourquoi il n'est pas possible de parler de génocide. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de parler de génocide en 1793 ? Pour une raison qui me paraît absolument essentielle, c'est qu'il n'y avait pas de groupe il n'y avait en 1793 qui ont pu être identifiés et qu'il n'y avait pas du tout même d'utilisation du mot vendéen dans l'ouest de la France et que ce qui se produit là, c'est que ce qu'on a appelé, ce que nous appelons toujours la guerre de Vendée, la guerre de la Vendée, c'est une guerre qui va créer une identité, mais cette identité ne préexistait pas à la guerre. Ça peut paraître un peu étonnant de dire cela, mais il est absolument nécessaire de rappeler, et ça je crois que c'est l'intérêt de faire de l'histoire, de revenir à ce qui s'est effectivement passé, c'est que lorsque l'usage du mot « guerre de Vendée », l'usage du mot « les rebelles de la Vendée et des Deux-Sèvres » sont employés à partir de mars 1793, ils s'appliquent tout simplement à la constatation et à l'explication d'une défaite qui vient de se produire dans le sud de la Loire, donc dans une zone qui appartenait à la Bretagne, au Poitou et au Maine, et une zone qui n'est pas identifiée, et une zone en revanche qui appartient à l'ensemble de ces zones qui se sont soulevées à partir de février-mars 1793 contre ce qui s'appelle la levée des 300 000 hommes et des zones qui sont hostiles depuis à peu près 2 ou 3 ans aux réformes religieuses et politiques de la Révolution. C'est-à-dire que si l'on veut chercher un groupe, il faudrait dire que les insurgés qui se sont levés contre la Révolution au sud de la Loire n'ont pas plus de particularités que l'ensemble des Bretons, des Normands ou même des Vendômois qui se sont soulevés au même moment pour les mêmes raisons. Il n'y avait pas donc de groupe ciblé en mars 1793, mais ce qui se produit dans le sud de la Loire en mars 1793 va être traduit lorsque une défaite anecdotique arrive portée par des députés, des représentants en mission, arrive à la Convention nationale qui est l'Assemblée, vous le savez, qui dirige le pays à ce moment-là. On se met à parler des rebelles de la Vendée en pensant qu'il y a là non seulement un soulèvement rural, mais aussi un arrangement, une complicité avec des Girondins, donc groupe sur lequel je ne m'étendrai pas, que je n'expliquerai pas, mais tout le monde sait à peu près que Girondins et Montagnards sont hostiles, ça suffira ici pour l'occasion, et donc on est en train de mêler à la Convention, d'inventer une complicité entre les Girondins qui ont été de fait des responsables de cette petite défaite qui s'est déroulée au cœur de la Vendée, au sud de la Loire, pour prétexter donc de cette petite défaite et dire qu'il y a la collusion entre Girondins et insurgés, et parler donc des rebelles de la Vendée à partir de mars 1793, et de dire qu'il est nécessaire qu'il y ait des troupes qui viennent de l'ensemble du pays pour lutter contre cette insurrection et cette complicité politique. Et c'est ainsi que ce qui était une insurrection, comme les autres, une insurrection comme celle, je l'ai dit très brièvement, qui venait d'avoir lieu dans tout l'ouest de la France. Grosso modo, un quart du pays se soulève au même moment, pour des raisons qui sont partagées par à peu près la moitié de la population française. Mais il aura suffi de cette petite défaite de mars 1793 pour que d'un seul coup, à Paris, on invente ces rebelles de la Vendée et des Deux-Sèvres, et même, on dira, des rebelles de la Vendée et des départements circumvoisins, ce qui est bien sûr trop long. Ça sera réduit à rebelles de la Vendée. On parlera aussi de la même façon de la guerre de Vendée. Et c'est ainsi qu'on rentre dans une guerre qui est portée là, et non pas, je dirais, par des intentions, mais qui est portée certainement par un courant, je dirais, interprétatif collectif, mais surtout qui est porté par les guerres civiles internes aux révolutionnaires entre eux. Et il me semble que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui crée en définitive cette existence d'un ennemi mythique qui va s'opposer à l'ensemble de la Révolution et qui mobilise les montagnards contre les Girondins, qui va mobiliser très rapidement les sans-culottes contre les montagnards. Et c'est de ce vide d'interprétation et aussi du vide de l'État que naît véritablement cette guerre très meurtrière qui naît d'un chaos, qui naît d'un vide politique. Et il me semble que c'est le deuxième point, je dirais, fondamental, qui incite aussi à dire qu'il n'est pas possible de parler de génocide, mais qu'il est bien nécessaire d'insister sur les responsabilités politique des uns et des autres. Et quand je dis responsabilité, c'est pour sortir un peu du débat que Henri Laurence avait lancé entre les intentionnalités et les circonstances. Il y a quelque chose d'autre dans ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a bien là des jeux politiques et des jeux politiciens qui sont en train de tout confondre et qui sont en train, pour régler des comptes internes, d'engager l'ensemble du pays dans cette guerre qui est une guerre absolument abominable. Pour faire très rapidement, je dirais, donner des éléments de réflexion sur cette question-là, ça commence dès avril 1793, lorsqu'il est décidé depuis Paris qu'il y aura des troupes envoyées de toute la France, très symboliquement, dans le sud de la Loire contre ces fameux rebelles de la Vendée et des Deux-Sèvres, pour manifester l'unité de la nation. D'un mot, et vous me pardonnerez d'être aussi bref, il est évident que le rassemblement de troupes qui sont porteuses d'idéaux totalement opposés, avec des règles totalement différentes, et des gens qui, aussi, on peut le dire, ne parlent pas tout à fait la même langue entre les Marseillais et les Strasbourgeois, provoquent non pas un rassemblement positif, mais au contraire un chaos absolument abominable, qui explique tout simplement que d'avril à l'été 1793, ce sont les troupes des armées catholiques et royales qui sont les victorieuses sur le terrain, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité en face de ces troupes, et parce qu'il y a même, et ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel à comprendre, qu'il y a même des trahisons, disons le mot comme ça, des trahisons, puisque les armées commandées par les sans-culottes vont à recevoir l'ordre de rétrograder lorsque des troupes des armées catholiques royales avancent pour que les troupes commandées par des généraux montagnards soient battues. Donc on est bien là dans une espèce de chose qui est quand même assez inimaginable, où ceux qui sont dans le même camp sont capables de laisser battre leurs compagnons d'armes pour justifier de leurs ambitions politiques et essayer de conquérir le pouvoir à Paris. C'est ça la réalité de cette guerre de Vendée. C'est ça qui explique ces chaos qui vont être considérables dans l'été et l'automne 1793, puisqu'il y aura là, en quelque sorte, aussi une autre chose. On va laisser, depuis Paris, les troupes sans culottes commettre littéralement toute la répression possible des populations qui sont considérées comme vendéennes, qui sont liées au mouvement insurrectionnel contre Paris et qui sont surtout considérées par les généraux qui mènent ces colonnes comme des gens qui sont des catholique, puisque c'est malgré tout un des éléments essentiels qui permet de juger et de condamner les personnes qui ont été faites prisonnières. Je parle là des hommes et des femmes. Et il y a ce moment qui est un des moments les plus dramatiques, c'est le moment de l'automne 1793 dans lequel il y a cette répression qui est extrêmement peu contrôlée, mais qui permet aussi aux troupes sans culottes d'être en quelque sorte affaiblies et qui va permettre aussi de ce point de vue-là quelque chose qui est un retournement assez impressionnant, c'est que les montagnards, et notamment Robespierre, qui avaient dans un premier temps soutenu les sans-culottes, qui ensuite s'en étaient éloignés, vont pouvoir profiter de cette situation pour rétablir définitivement leur pouvoir à Paris et envoyer les meneurs sans-culottes à la guillotine. C'est la guerre de Vendée, c'est aussi ce moyen de régler ses comptes et d'arriver à prendre le pouvoir. Un épisode doit être évoqué très rapidement, c'est l'épisode de février 1794, très brièvement, où un des généraux envoyés pour commander l'ensemble des troupes sur place, le général Thurot, va lancer des colonnes incendiaires, connues aujourd'hui comme les colonnes infernales, qui reçoivent des ordres allusifs très dramatique. Il s'agit bien d'exterminer les brigands de la Vendée et sous-entendu de protéger les réfugiés de la Vendée ou les populations patriotes, ce qui se fait dans un certain nombre de zones, ce qui ne se fait pas du tout ailleurs. Et le résultat, c'est d'accentuer la division entre les troupes révolutionnaires et républicaines, et surtout, c'est de permettre la renaissance et le renforcement même des armées catholiques et royales, si bien que le plan de Thurot, qui avait été accepté de façon compliquée, disons-le comme ça, à Paris, va être abandonné très rapidement à partir d'avril. Et ce qui est essentiel à comprendre, c'est que ces brigands de la Vendée, dont le nom avait été inventé en mars 1793, vont devenir des frères égarés à partir d'avril-mai 1794, et que au fur et à mesure de l'année 1794, il va y avoir des tentatives de pacification qui vont déboucher à partir du début de 1795 sur un phénomène tout à fait exceptionnel, c'est des traités de paix signés entre la France de la Convention, et encore on est en février 1795, avec des généraux comme Charette ou Stofflet, c'est-à-dire que la guerre de Vendée s'achève avec des traités de paix, comme si on traitait d'égal à égal. Bien sûr, tout cela sera extrêmement fragile et débouchera sur une reprise de la guerre, mais ce qui me semble important, c'est bien de rappeler ces faits extraordinairement compliqués, ces faits qui sont liés aux divisions internes et ces faits qui ne permettent pas de dire que c'est au nom d'un groupe ni ethnique, ni politique, ni religieux qu'il y a eu le déclenchement de la guerre, mais bien dans cette conjonction tout à fait invraisemblable de lutte politique entre des républicains révolutionnaires qui ont utilisé une insurrection pour régler leurs comptes et prendre le pouvoir. Si l'on veut chercher dans la Révolution un exemple au moins de génocide, il me semble possible de le faire en s'intéressant aux quelques communes du Pays Basque, je pense à Sara et Estassou, qui ont été, pour une partie d'entre elles, vidées de leur population. Il y a eu plusieurs milliers de Basques qui ont été envoyés parce que parlant basque. Donc là, il y a une véritable unité, au moins de langage et de communauté sociale, et qui ont été envoyés au moins jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et Bordeaux, voire pour une partie d'entre eux au Cantal, dans le Cantal pour travailler. Inutile de dire que cette question du génocide basque est une question polémique qui est encore aujourd'hui utilisée, mais il me semble aussi que ça serait nécessaire de s'y intéresser, je dirais, sérieusement, en tant qu'historien pour vérifier la validité des faits, pardon, et puis pour revenir sur les plaies mémorielles qui sont nées de cet épisode et qui sont toujours là. Et qui sont toujours là parce que ce qui me semble nécessaire, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que si je récuse la notion de génocide, il me semble en revanche nécessaire de dire que c'est ce que nous avons à chercher tous ensemble, c'est une réflexion sur les mots que nous employons pour qualifier dans notre mémoire de ces faits et pour accepter d'intégrer ces faits dans la mémoire nationale pour reconnaître d'une part que le résultat de la guerre de Vendée, c'est bien d'avoir créé un bloc vendéen divisé dans lui-même, hein, qui couvre le sud de la Loire-Atlantique, le nord de la Vendée, une partie des Deux-Sèvres et la moitié à peu près du Maine-et-Loire, mais pour lequel, pour ce groupe, il y a là indiscutablement une unité qui est encore visible dans le paysage, et je le dis absolument sans aucune envie de rentrer dans des polémiques ou de justifier telle ou telle position, mais tout simplement en tant qu'historien, qui constate une chose, c'est la zone rurale la plus peuplée de France encore, et c'est la zone rurale dans laquelle il y a des industries rurales extrêmement vives que vous connaissez, même sans savoir que c'est né indirectement des conséquences de la guerre de Vendée. Donc, il y a cette première chose, cette reconnaissance de cette naissance-là d'une mémoire qui rentre mal dans la mémoire nationale, qui rentre mal et qui rentrait jusque dans les années 1960, finalement d'une façon un peu plus claire, puisque la guerre de Vendée était enseignée véritablement dans les écoles et les lycées, jusque dans les années 1950, dans l'enseignement public. Je dirais, j'en suis un témoin vivant, j'ai appris aussi ce qu'était le petit tambour bara lorsque j'étais dans une classe de primaire à la fin des années 50. Il me semble qu'il y a là quelque chose sur quoi il faut vraiment revenir. Et puis, ce qui me semble vraiment, c'est là vraiment le mot pour moi de la fin, c'est qu'il me semble que ce que je viens de vous dire, c'est aussi la reconnaissance qu'il n'y a pas des blocs qui ont divisé la France pendant la période révolutionnaire. Décidément, Clémenceau se trompe beaucoup. Et il est nécessaire, même au contraire, de tirer de la Révolution française une leçon politique sur les responsabilités politiques de ceux qui, à un moment donné, prennent le pouvoir et entament des instrumentalisations des idéologies et des groupes qui les suivent et qui les incarnent. Et ce qui me semble essentiel dans cette histoire-là, c'est d'accepter que ce sont les divisions mortelles entre révolutionnaires qui ont permis qu'il y ait ce chaos militaire et qui ont permis que des individus puissent s'arroger le droit, peut-être génocidaire, mais il me semble que c'est génocidaire contre les catholiques plus que contre un groupe ethnique ou politique même, mais bon, qui ont donc laissé des individus s'arroger des droits suprêmes et mettre à mort des individus. C'est ce vide politique qu'il est nécessaire de comprendre. Parce que finalement, nous vivons encore et toujours, et c'est quelque chose qui me préoccupe le plus, sur un certain nombre de connaissances tacitement admises sur l'histoire de la Révolution, et que si il est nécessaire de venir sur la guerre de Vendée, c'est pour remettre à nu ces divisions, pour remettre à nu les responsabilités qui ont été prises, pour que nous en tirions vraiment des leçons politiques qui sont valable aujourd'hui, et qu'il me semble, c'est ça qui est aujourd'hui l'essentiel du propos que je tiens. Qualifier de génocide ce qui s'est passé dans la guerre de Vendée, ça serait au contraire bloquer complètement le débat, ça serait renforcer des oppositions qui n'existent finalement que dans l'idéologie et qu'il ne faut pas masquer parce que c'est ça qui a créé, je dirais, 200 ans de méprise, 200 ans de conflit, et qu'il est grand temps que les choses changent. Ça sera, en quelque sorte, pour moi, un espoir peut-être vain, mais il me semble que c'est à cela que je m'attache depuis 40 ans et qu'il me semble nécessaire de faire. Dernier mot, ultime enfin, mon propos, c'est aussi de rappeler que dans un débat qui vise à qualifier juridiquement des faits avant qu'il y ait un usage politique normal, puisque c'est bien les politiques qui déterminent l'usage des qualifications juridiques qui sont employées. Ce que je voudrais rappeler, c'est que, je vais le dire d'une façon un peu rapide, l'historien n'est pas l'esclave qui apporte de l'eau, ni aux juristes, ni aux politiques. Et que si l'histoire a du sens, c'est d'aller dans le détail des faits pour rappeler, comme disait Ranke, la nécessité de comprendre ce qui s'est effectivement passé. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.